Monique, êtes-vous en forme?
Oui,
super.
Bien sûr.
Alors, on parle de la crise du logement, mais autrement avec vous.
Oui, alors le titre de l'article que j'ai retenu, Hélène, c'est « Crise du logement, alors que l'État se désengage, une entraide de proximité permet d'éviter le pire ». Et c'est un article qui est rédigé par Nicolas Bancherki, Mathieu Chaput, et tous les deux de l'Université TELUC, et Nassiri Sahara, qui est étudiante à la maîtrise en communication internationale et interculturelle à l'UQAM. Alors, d'abord, ils nous font un portrait de la situation. Bon, on a entendu beaucoup de choses à la radio, donc je pense que ça va résumer tout ce qu'on a pu entendre lire et entendre dans les médias. Alors, face à la crise du logement, il y a une autre forme de solidarité qui émerge. L'entraide entre locataires. Dans l'ombre des institutions débordées, il va sans dire, des citoyens s'organisent pour s'aider, partager des conseils et trouver des solutions ensemble. Ça, on n'en parle pas dans les médias. Dans plusieurs villes,
En tout cas, on en parle moins.
En tout cas, oui. Moi, j'ai pas vu. Vous avez vu?
J'ai vu certains billets, certains textes où il y avait un peu plus d'espoir, où on sentait qu'il y avait de l'entraide, de la solidarité, de la volonté de s'en sortir.
Tant mieux, peut-être dans les textes d'opinion, hein, peut-être. Mm-hmm. Alors, dans plusieurs villes, le taux d'inoccupation frôle ou tombe sous la barre de 1%, pendant que les loyers grimpent en flèche. Face à cette rareté de logements abordables, les élus comme les médias tirent la sonnette d'alarme. Et même si la situation est critique, mais le tribunal administratif du logement, le TAL, a récemment proposé une hausse record des loyers de 5,9% en moyenne, un coup de massue pour les locataires déjà fragilisés. Cette crise, bien que dénoncée de longue date, on peut dire de plusieurs années, par les groupes communautaires et militants, prend désormais une ampleur inédite. En toile de fond, deux facteurs structurels, le manque chronique de logements sociaux et un marché de plus en plus livré à la spéculation mobilière. Un autre élément important est le dysfonctionnement du TAL. Les ressources des comités logements présents dans chaque quartier ou ville du Québec ne sont pas comparables à la multiplication et à la lourdeur croissante des cas qu'ils accompagnent. Leur financement s'accompagne de plus en plus de conditions, comme celle de ne pas dénoncer les dysfonctionnements du tribunal administratif du logement. Celui-ci se fait reprocher, entre autres, les longs délais de traitement, les décisions étant souvent rendues bien après que les locataires ont dû déménager ou subi un préjudice important. Le TAL a aussi échoué à empêcher les loyers d'augmenter de manière draconienne. Vous avez entendu et lu au sujet de ces chiffres, Hélène, jusqu'à 71% à Montréal depuis 2019. Et ce, malgré que le Québec soit censé avoir une politique de contrôle des loyers. Il y a quelque chose qui est troublant là, dans tout ça. Là. À Montréal, comme ailleurs dans la province, le manque chronique d'inspecteurs a aussi contribué à la multiplication des logements insalubres. On voit aussi à travers Montréal, je pense surtout, des HLM qui sont pratiquement placardés parce qu'ils n'ont pas été entretenus. C'est une source d'habitation...
Perdue.
Perdue, carrément. Alors, malgré... Et ça, parce qu'on n'a pas entretenu. Hein.
C'est ça, il y a eu un laisser-aller, de la négligence.
C'est incroyable. On ne peut pas imaginer... Malgré une hausse des inspections à Montréal au cours de la dernière année, celle-ci ne mène qu'à de timides amendes et tarde à se traduire en amélioration de conditions de vie des locataires. On dirait qu'on a peur d'agir vraiment de façon plus draconienne. Face à cette conjoncture, les locataires livrés à eux-mêmes doivent donc trouver des alternatives comme l'entraide. D'ailleurs, 75% des Québécois affirment faire du bénévolat directement auprès d'autres personnes sans passer par un organisme formel. C'est assez impressionnant comme chiffre.
Je comprends. 75%?
Oui. C'est ce phénomène que les trois chercheurs sous la supervision du professeur Ben Chéric ont voulu mieux comprendre dans le cadre du projet qu'ils ont intitulé « Entraide dans les marges ». L'équipe de recherche a passé en revue la littérature scientifique sur les pratiques d'entraide à l'échelle mondiale et analysé des échanges entre locataires québécois, notamment sur les réseaux sociaux. Alors, en marge des institutions censées les accompagner, comprendre comment les personnes s'entraident est une démarche nécessaire. L'équipe a constaté le désarroi des locataires, mais aussi leur générosité lorsque vient leur tour d'aider les autres par des conseils ou des solutions pratiques. Ainsi, l'étude a permis de constater notamment sur des groupes comme Reddit que des familles demandent dans quelle région elles peuvent déménager afin de ne pas se retrouver à la rue alors que leur loyer augmente dangereusement ou qu'elles sont menacées d'expulsion. L'étude révèle que de nombreuses personnes offrent un hébergement pour quelques jours à des inconnus dans le contexte où les ressources en hébergement se font rares. La littérature suggère que face au désengagement de l'État et à la dissolution du tissu communautaire, les citoyens s'en remettent à l'entraide, c'est-à-dire au soutien de pairs qui sont passés par des expériences similaires ou qui sont en mesure de les aider. Dès les années 1980, certains auteurs, comme le chercheur américain Lawrence Schulman, soulignent que l'entraide se fait par la communication, grâce au partage des idées, des faits, des croyances et de ressources. Probablement que les médias sociaux maintenant mettent, beaucoup plus d'emphase sur ces éléments de réponse par l'entraide. L'équipe de recherche a ainsi observé comment s'organise l'entraide sur les réseaux sociaux grâce au langage et à la rhétorique employée. Elle a remarqué que les demandes d'aide et leurs réponses suivent une même structure. Alors, les internautes commencent par formuler un problème, montrant qu'ils en sont les victimes et non pas les auteurs, et en insistant sur leur vulnérabilité, suscitant ainsi l'empathie de leur auditoire. Ils indiquent ensuite l'aide qu'ils souhaitent recevoir au moyen d'une question et en éliminant les options déjà explorées. Ils montrent qu'ils connaissent les règles implicites de la communauté par l'emploi de formules de politesse et d'émojis remplissant une fonction relationnelle. Alors, les réponses dépendent de la formulation de la demande. Si une demande ambiguë génère des réponses très diversifiées allant de l'encouragement à porter plainte au tribunal administratif du logement à l'offre de colocation, en passant par des conseils juridiques plus ou moins avisés. Certains répondants redéfinissent le problème initial, suggérant que la personne demandeuse a mal identifié l'enjeu de la situation. Les réponses méprisantes suscitent des rappels de l'importance d'être empathique envers les demandeurs d'aide.
Oui. Alors sinon, on se retient, on ne parle pas, on n'écrit pas.
C'est intéressant de voir qu'il y a vraiment une structure de questions-réponses.
Oui.
Un fait intéressant a surgi des analyses de l'équipe de recherche. Si la structure des messages ne variait que peu, les messages anglophones diffèrent clairement de leur homologue francophone.
Ah bon?
Alors, les demandes d'aide en anglais consistent davantage en partage d'expériences personnelles et en appel à l'action politique, tandis que ceux rédigés en français se concentrent davantage à résoudre un problème pratique.
Ah bon?
C'est intéressant comme
alors... C'est la faute du gouvernement d'un bord, puis je sais pas moi, il manque un bord à ma table, à ma chaise.
Exactement. Alors, les groupes de discussion dans les deux langues sont aussi l'occasion de nombreuses rencontres entre locataires et propriétaires. Ça m'a vraiment étonnée, ça. Et ces derniers, donc les propriétaires, expriment souvent de la compassion envers les situations difficiles décrites dans les demandes d'aide et s'indignent des pratiques parfois malhonnêtes des propriétaires, des autres propriétaires, donc des propriétaires concernés. Au-delà de la division entre propriétaires et locataires, il semble donc que les réseaux sociaux offrent aussi un lieu de dialogue entre ces deux catégories de personnes.
Là aussi, il doit y avoir toutes sortes de dialogues. Ça passe de la compassion, la compréhension à la grosse chicane, là.
Oui, probablement, mais on a l'impression que l'espace de dialogue, en tout cas, occupe une place importante.
Ça dialogue, en tout cas.
Oui, c'est ça qui est important. Et peut-être qu'il y a des modérateurs aussi entre tout ça qui facilitent le dialogue. Cette forme d'entraide, bien que ponctuelle, n'en est pas moins essentielle. Dans un contexte où l'État se dégage de ses responsabilités...
Se désengage.
Pardon?
Se désengage. Plutôt.
Se désengage, ouais. Oui, qu'est-ce que j'ai dit?
Dégage.
Ah, mon Dieu, excusez-moi.
Mais ça aurait pu aussi.
Mais il se dégage aussi. De ses responsabilités en matière de logement, elle agit comme un filet de sécurité improvisé. Elle ne remplace pas les politiques publiques, mais elle pallie leur absence les plus criantes. Alors, documenter ces pratiques peut contribuer à mieux outiller les locataires, les aider à formuler leurs demandes, à identifier des ressources et à maintenir des réseaux d'entraide durables. Parce qu'en l'absence de solutions structurelles, mais c'est souvent cette solidarité de proximité qui leur permet d'éviter le pire. Mais je pense que l'élément essentiel, c'est peut-être justement ce désengagement de l'État. On parle, mais est-ce qu'on agit vraiment?
Ouais.
Par hasard, je lisais un article, Hélène, dans « Reasons to be cheerful », et on nous mentionnait la réalité qui est celle de la Norvège, encore de ces pays nordiques. À Oslo, il n'y a pratiquement plus de personnes qui dorment ou vivent dans la rue parce que l'État s'est engagé à trouver à appuyer, en fait, des démarches de construction de logements et d'aider ces personnes à réintégrer aussi un espace de vie normal. Alors, il y a des solutions possibles.
Merci beaucoup. Il y a José Legault aussi qui écrivait tout récemment une chronique à ce sujet, au sujet des logements là, qui sont en crise. En fait, c'est la crise du logement. Et le titre de sa chronique, « Sur quelle planète vit la ministre de l'Habitation? » Ça a été publié le 2 juillet. Si cela vous intéresse, la crise du logement, on le sait, s'envenime. Partout au Québec, c'est le Far West pour des milliers de Québécois dont l'unique péché, semble-t-il, est de ne pas être propriétaire. Merci, Monique. Oui.
Bienvenue.
Alors, Monique, encore à vous avec des brèves. Combien de jours faut-il pour installer une routine? Il me semble que j'avais entendu 21. Non? Ah, c'est pas ça.
Parce que selon une recherche faite par, attendez, est-ce que je vois, des chercheurs australiens, voilà,
ouais.
Il faut 55 jours.
Ah, 55, bon, c'est
pour
plus.
Pour installer une routine, voire jusqu'à 66 jours en moyenne. Et ça, c'est seulement, Hélène, pour intégrer une nouvelle habitude toute simple. Par exemple, emporter avec soi une gourde d'eau.
OK, tout Mais simplement.
Si on veut commencer à faire des étirements tous les matins, par exemple.
Moi, ça me prendrait plus que 66 jours.
Oui. Bien, il vous faudra compter au moins 106 jours de routine.
Ah, 106.
Oui. Et même 154 si vous avez décidé de le faire le soir.
Alors, donc, pour arriver à intégrer la routine, il faut le faire pendant 106 fois. La routine de s'étirer à tous les matins. Si oui. on le fait 106 fois, on est correct.
On devrait être correct.
On devrait. Oui,
alors,
en principe.
Alors, les chercheurs australiens qui ont vraiment analysé 20 études sur le sujet ne veulent décourager personne. Ils donnent même des petits trucs. Selon eux, le succès tiendrait en 3 étapes. Fixer soi-même son plan d'action. Il ne faut pas que ça nous soit imposé par quelqu'un d'autre. Hein.
Ça ne marche jamais, ça.
Puis décider quel est le meilleur contexte pour y arriver. S'appliquer régulièrement. Bon, là, ça, c'est clair. Faut pas interrompre. Et conserver la trace de ses progrès.
Oui.
Alors, on s'améliore un petit peu. Les étirements, par exemple, on va dire là, je suis capable de m'étirer. Si je me penche, je suis debout, je veux mettre mes mains, je veux toucher mes mains au sol, puis j'y arrive pas. Mais tout doucement, à force de répétition, je vais pouvoir peut-être me rapprocher du sol. Alors, je note ça.
On l'écrit dans un carnet, puis ça peut être motivant, oui.
Exactement. Mais quand on arrête, c'est tellement difficile de reprendre.
Tout à fait.
Alors, voilà, 106 jours. OK. 54 ou 106.
Vous avez dit 55, 66, 106. Puis arrêter de fumer, en tout cas, ça fait longtemps que j'ai arrêté de fumer, là, mais ça a été long. Ouais.
Il y a des ah oui, ça a été long?
Il y a des essais, erreurs, des tentatives, des échecs, mais il ne faut pas lâcher. Oui, ça a été long, là, comme une année de...
D'aller-retour,
mais aussi de conversation avec mon mental.
Ah oui!
T'es capable.
Votre Ford intérieur.
Oui. Elle est bonne. Écoute ton char.
Oui.
Des globules rouges adaptés à tous les groupes sanguins.
Eh bien oui, mais ce qui est extraordinaire, Hélène, c'est que, bon, c'est une petite brève que j'ai trouvée dans Epsilon, mais ça concerne le centre hospitalier universitaire de Québec. C'est là que ça a été réalisé. Alors, grâce au ciseau génétique CRISPR, vous vous souvenez du prix Nobel là, qui a été remporté par des dames qui avaient fait cette découverte, les chercheurs ont éliminé les principaux antigènes, c'est-à-dire ça, c'est des protéines qui sont fabriquées par le système immunitaire, de cellules progénératrices de globules rouges. Alors, on a obtenu ainsi des cellules de donneurs universelles O négatif. Alors, c'est un espoir pour contourner la pénurie chronique de sang à transfuser et les problèmes de compatibilité. Bon, il reste par ailleurs à déployer le processus à grande échelle. Mais on leur dit bravo et on leur dit merci.
Complètement. Il y a un début à tout. C'est encourageant.
Oui.
Et on termine avec la capsule linguistique 5 propositions de l'OQLF, qui est l'Office québécois de la langue française, dans le Petit Larousse illustré.
Oui, parce qu'il faut savoir, Hélène, que chaque année, l'Office suggère à l'équipe éditoriale du Petit Larousse illustré l'ajout de mots ou de sens représentatifs de l'usage québécois. Alors, l'édition qui vient tout juste de paraître a ainsi été enrichie de 5 particularités du français d'ici. Le premier mot, c'est circulaire, c'est-à-dire un document publicitaire. Le deuxième, motard et motarde. On parle ici de motocyclistes que l'on associe généralement au milieu criminel. Le troisième, procédurier, un document qui présente des procédures. On aurait pu imaginer que c'était déjà dans le dictionnaire, mais non. Le mot pont pour prothèse dentaire. Et enfin, réduflation. On connaît maintenant ce mot, réduction de la quantité de produits vendus au même prix.
Alors, des fois, ça coûte encore plus cher, puis on en a moins pour notre argent.
Exactement. Et ce serait sous l'entrée, ça, shrinkflation. Alors, c'est drôlement plus beau, réduflation. Cette fructueuse collaboration entre les deux organisations contribue d'année en année, donc, à la valorisation du français québécois. Bien, permettez-moi aussi, Hélène, de vous rappeler que l'Office québécois de la langue française a quand même un outil fort utile pour nous qui sommes toujours à la recherche du mot juste ou de l'accord de mots, la vitrine linguistique.
Oui.
C'est un outil, en tout cas, que je trouve, moi, fort utile, et pas seulement moi, puisqu'il y a un sondage qui a été mené auprès de 1281 internautes qui révèle que la satisfaction globale s'élève à 9,26 sur 10. Alors, on les remercie. Mais ils prennent pas toujours des bonnes décisions.
Des fois, ils changent d'avis. Ils avancent, ils reculent.
C'est ça. Donc, comme vous me le faisiez remarquer, l'Office québécois de la langue française a fait marche arrière par rapport au « go, abs, go ».
Mais ça fait quand même drôle à entendre. Elle fait marche arrière avec le « go ». Le go, abs, go. Alors, on avance, mais on recule.
C'est un pas devant, 10 pas derrière, je sais pas.
Allez, Canadiens, allez! Il me semble que ça se disait mal.
Ça se disait très mal. Mais je pense que parfois, je pense que c'est Guy Bertrand qui disait qu'il faut quand même voir qu'il y a l'utilisation populaire qui prend le dessus.
Oui, l'usage finit par gagner, en tout cas la plupart du temps. Mais des fois, on a peur. Le bon matin, là, ça nous tente moins.
Ben oui.
Ça fait du sens.
C'est nos deux marottes.
Oui, mais go, abs, go, me semble que c'est dans l'usage depuis belle lurette.
Ben, exactement. Je pense, je regarde l'article, il y a Benoît Melançon, qui est professeur émérite de littérature à l'Université de Montréal, qui est un spécialiste d'ailleurs du hockey. Il fallait qu'il fasse marche arrière. Puis c'était peut-être pour répondre à une commande politique, parce que le ministre...
Jean-François Roberge, de la langue française.
Ben lui, il a tout de suite réagi en disant, mais voyons donc, est-ce que c'est ça?
Oui, il dit, l'expression fait partie de la culture québécoise et que toute plainte future concernant ce slogan serait rejetée. Mais moi, j'ai lu, c'est dans la presse, on en parle un peu partout, là, dans Le Devoir aussi. On dit que l'Office indique que bien que « aller » soit le terme privilégié, l'usage du mot anglais à des fins d'encouragement est désormais partiellement légitimé. Partiellement.
Oui. Mais là, on va voir...
Alors, on va dire « go, Canadien, allez!
» Oui. Ou « allez, go! » Enfin.
Bon, alors, Monique, là-dessus, on se dit au revoir.
On parle gros, puis on récolte 200 $.
Oui. Alors, je ne sais pas si vous allez avoir le temps de jouer au Monopoly cet été, mais je vous souhaite un bel été. On va se retrouver quelque part au mois d'août et je vous fais la bise.
Bien, moi aussi, Hélène, de belles et joyeuses vacances.
Merci beaucoup et merci pour toutes vos collaborations. Au plaisir de vous retrouver.